Bienvenue ce soir à cette commémoration. Comme de coutume, nous aurons d'abord une pensée pour 13 morts, mais pas ceux du 9 novembre 1932. Il y a 112 ans, le 23 août 1909, à 500 mètres d'ici, l'usine de à gaz de la Jonction explosait, faisant, c'est une coïncidence, également 13 morts et de nombreux blessés. Leurs noms sont oubliés, ce n'étaient sûrement pas tous des militants, mais nous rendons aujourd'hui hommage à ces victimes du travail dont la mort avait été considérée comme un risque du métier. Nous sommes ici pour commémorer ce qui s'est passé à cet endroit le 9 novembre 1932 sur un fond de crise économique, l'intervention de l'armée contre des ouvriers, contre des militants qui combattaient le fascisme, cette doctrine de xénophobie et d'exclusion, ce système qui voulait mettre à genoux le mouvement ouvrier. La principale responsable de ce crime est l'armée, qui au XXe siècle, malgré avec toutes ces guerres, a eu comme seule action de tuer des ouvriers lors de la grève générale de 1918 et les manifestants du 9 novembre 1932. Mais il y a d'autres responsables, ce sont d'abord les fascistes. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la mise en accusation de Léon Nicolle et Jacques Dicker n'était pas seulement un soi-disant procès contre les dirigeants de gauche, mais aussi une attaque xénophobe et raciste. C'est parce que Léon Nicolle et Jacques Dicker étaient de gauche, mais aussi parce que le second était juif et le premier vaudois, donc un étranger. Le journal fasciste Pilori disait « Notre ville connaît l'odieux régime de l'occupation étrangère, un juif russe et un vaudois bolchevisant commande une armée de confédérés que le marxisme a dénationalisé. » Le troisième responsable, c'est le gouvernement de droite, qui avait refusé d'interdire ce meeting fasciste, car cela lui permettait de tenter de casser une gauche politique et syndicale remuante. On racontera d'ailleurs aux recrues venues de Lausanne, armées de balles réelles, qu'une révolution communiste avait éclaté à Genève. Et dès le lendemain du 9 novembre, dans toute la Suisse, par crainte de manifestations de solidarité, voire d'émeutes, des dizaines de militants sont emprisonnés, des rassemblements ouvriers interdits, tout comme la presse de gauche. L'armée est appelée à la rescousse dans divers cantons où des mouvements syndicaux avaient eu lieu les années précédentes. Devant le désarroi né des difficultés économiques, du chômage, de l'exclusion, le repli sur soi engendre des divisions dont profite le patronat. Il mène tout droit à l'intolérance, à la xénophobie et au racisme. L'extrémisme de droite, qu'on euphémise en populisme, naît sur les peurs, sur le désarroi et la détresse de la population. Notre lutte ne peut pas se permettre de division, de voir les travailleuses et les travailleurs se dresser les uns contre les autres, sous prétexte de différences d'origine ou de couleur d'yeux ou de peau. Toute division entre nous fait la force de ceux que nous combattons. Nous n'acceptons pas les discours des fanatiques populistes, ces discours qui prétendent qu'il faut se protéger des autres. Il n'y a qu'une seule condition à notre lutte, une seule condition pour gagner, c'est la solidarité et l'unité sans faille, sans hésitation, sans restriction de pensée. Et si la situation des travailleuses et des travailleurs n'est plus celle de 1932, ce n'est pas le résultat du bon vouloir du patronat ni de l'État, c'est le résultat des luttes du mouvement ouvrier. C'est pourquoi aujourd'hui nous rendons hommage à tous ceux qui ont payé ce combat de leur vie. C'est cela, mes camarades, le sens de l'hommage aux anciens. C'est en cela qu'ils nous ont préparé la voie que nous continuerons à suivre. On passe maintenant aux prises de parole des différentes organisations, commençant par Solidarité et Luca Calfano.
Bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers camarades. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour commémorer cette date importante dans l'histoire de l'antimilitarisme et dans l'histoire de l'antifascisme genevois. Cette commémoration fait encore aujourd'hui écho à nos luttes que nous menons jour après jour. En effet, les militaires de 1932 d'hier sont les policiers d'aujourd'hui qui répriment le mouvement social. 89 ans nous séparent, mais l'intervention de l'État pour protéger les fachos reste la même. En effet, il est important de rappeler que le 9 novembre 1932, le Conseil d'État avait refusé d'annuler ce meeting et à la place avait préféré d'envoyer l'armée pour réprimander et pour mater le mouvement ouvrier antifasciste. Il est important de rappeler, n'oublions pas les camarades, que dans quelques semaines, l'islamophobe, le sexiste, l'antisémite, le sexiste, le facho, en d'autres termes, cette ordure d'Éric Zemmour, sera à Genève pour déverser sa haine. Est-ce que le Conseil d'État, majoritairement à gauche, je le rappelle, va-t-il s'opposer à ce meeting et l'interdire? Pour l'instant, c'est pas parti pour. Mais quand nous, les militants et les camarades d'Antifa, allons venir pour manifester notre opposition face à ce facho de Zemmour, devant le lieu du meeting, qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a fort à parier que l'État enverra ses troupes, cette fois policières, pour protéger la parole d'un fasciste. On est bien parti pour ça, malheureusement. On peut aussi avoir une pensée pour les camarades étudiants qui sont actuellement en train d'occuper la cafétéria pour une cause juste, légitime, pour que tous les étudiants et les étudiantes puissent manger à leur faim à des prix dignes. Et ces derniers ont toujours un risque de se faire réprimander et de se faire sortir manu militari de cette cafétéria de manière violente. Camarades, ne voyez-vous pas des similarités avec le passé et le présent? La répression envers les mouvements sociaux de la part du pouvoir est toujours la même. Elle n'a pas changé d'un iota. Il en va de même pour le combat antifasciste que nous menons. Il n'est jamais trop de le rappeler, mais le fascisme monte au fur et à mesure dans tous les pays. Et Genève ne fait pas abstraction de ce cas. Loin de là, les amis. Régulièrement, des médias comme Renversons montrent la présence de militants néo-nazis, fascistes, dans des partis politiques comme l'UDC et l'UDF, sans compter les groupuscules politiques qui vont aller racailler et matraquer et défoncer des militants de la gauche, des homosexuels et des personnes racisées. Rien que dans notre jeunesse, à la Jeunesse solidaire, deux militants ont été agressés il y a quelques temps à la sortie d'un bar par sept militants fascistes. Les fachos, ils sont dans nos rues et il en va donc de notre devoir de lutter dans nos quartiers pour que ces derniers dégagent. C'est justement des événements comme celui-ci qui nous rappellent l'importance fondamentale du combat que nous menons dans nos quartiers, dans nos villes. Genève restera antifasciste. Aujourd'hui, on est là pour se rappeler l'énorme sacrifice qui a été fait par des camarades pour la défense de nos libertés. L'événement d'aujourd'hui, il permet de comprendre pourquoi on doit rester dans la rue, pourquoi on ne laissera pas nos quartiers aux fachos. Donc n'oubliez pas, vive la lutte antimilitariste, vive la lutte antifasciste et surtout, no pasarán.
Juste en complément de ce que Lucas vient de dire, c'était quelque chose qu'on a rajouté dans les textes sur le 9 novembre, sur lesquels on n'avait pas insisté, il en a un tout petit peu parlé, c'est de dire qu'on avait dit aux recrues qui arrivaient à Genève qu'il y avait une révolution communiste qui avait éclaté à Genève et que c'était une tentative aussi du Conseil d'État de mater la gauche. Et dès le lendemain du 9 novembre, dans toute la Suisse, par crainte de manifestations, solidarité, voire d'émeutes, des dizaines de militants sont emprisonnés, les rassemblements ouvriers sont interdits, tout comme la presse de gauche. L'armée est appelée à la rescousse dans divers cantons où des mouvements syndicaux avaient eu lieu les années précédentes. Je passe maintenant la parole à Pablo Cruchon pour Résistons.
Bonsoir à toutes et tous, merci d'être présents. Comme chaque année, c'est vraiment très important qu'on se réunisse pour commémorer ce moment, pour faire perdurer l'histoire du mouvement ouvrier. Mais aussi, moi ça m'interroge toujours parce que je me demande toujours pourquoi est-ce que les jeunes générations doivent continuer à faire vivre ce moment? Pourquoi est-ce que c'est important qu'on se réunisse ici? C'est pourquoi ce serait important qu'on soit plus nombreux et qu'on fasse des meilleures encore mobilisations dans l'avenir. Et Bien sûr, l'histoire du 9 novembre, elle est fortement liée à des mobilisations antifascistes. Lucas en a bien parlé. Mais moi, j'aimerais insister sur l'autre côté du 9 novembre, et à mon avis, le principal enseignement du 9 novembre, à savoir que l'armée a été mandatée pour venir réprimer une manifestation et que cette armée a fait feu sur la population. Et je dis sur la population parce qu'évidemment, il y avait des militants antifascistes, mais il y avait aussi des passants qui ont décédé sous les balles de l'armée. Et qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit que l'État, quand il est dans ses derniers retranchements, il déploie la force pour mater les mouvements sociaux, pour mater la résistance, et qu'il peut aller jusqu'à tuer. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un moment de grande actualité de ça. Pourquoi? Parce qu'on a un tournant clairement autoritaire du néolibéralisme. Ça s'incarne très fortement, par exemple, chez Macron en France, où il a très clairement décidé d'avoir une politique fortement antisociale, couplée avec un mouvement de répression très très fort qui va jusqu'à la mutilation, jusqu'à des violences systémiques sur les manifestants, sur les opposants, mais aussi sur les gens simplement qui se baladent aux abords de ces manifestations. Donc on a un tournant très très important du néolibéralisme, c'est un tournant planétaire, et je pense que ça c'est quelque chose de fondamental pour nous dans l'analyse qu'on fait actuellement de ce qui se passe, c'est qu'il y a un tournant planétaire qui s'incarne de différentes manières, Macron, Bolsonaro et autres, mais on voit tout la même chose. Attaque antisociale, gestion répressive des manifestants, gestion répressive de la pauvreté, gestion répressive de la migration qui se renforce. Et face à ça, on doit tirer des enseignements en nous. Et je pense que c'est chouette de vous voir toutes et tous aussi nombreux, mais ce serait bien qu'on soit bien plus nombreux, parce qu'en Suisse, on va avoir des luttes dans l'avenir qui vont se mener sur ce front. Parce que je vous rappelle que cette dernière année, nous avons vu malheureusement l'acceptation de la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, qui sont un dispositif répressif et de surveillance des gens terribles, des organisations aussi et des fronts de libération de nos camarades d'autres pays, qui pourra être déployé en Suisse de manière tout à fait légale. Il y a aussi des projets d'assouplissement de la loi sur le renseignement et d'autres projets qui sont au Parlement afin de continuer à avoir une surveillance accrue des militants, une répression accrue des mouvements sociaux, etc. Donc on va vers une période de durcissement des rapports de force, y compris en Suisse, et avec un État qui se dote toujours plus d'instruments capables de réprimer les gens, capables d'intervenir et de déployer de la force contre les gens. Et donc, à mon avis, le 9 novembre doit s'inscrire, la commémoration du 9 novembre doit s'inscrire dans cette lutte, dans ce souvenir, pour rappeler que l'État, en dernier recours, ou même pas en dernier recours, en vrai, parce que là, il n'y avait pas de menace pour l'État à ce moment-là, il est capable de faire feu sur la population. Donc, il faut continuer à s'organiser sur des bases antimilitaristes, antifascistes, et surtout des bases de modification concrète de cette réalité sociale, c'est-à-dire une perspective révolutionnaire. Et nous vous invitons à rester mobilisés, à vous mobiliser, je le répète, sur la loi sur le renseignement qui va arriver, qui sera la nouvelle MPT, malheureusement, et qui va être un outil de surveillance de masse des mouvements sociaux. Voilà, je vous remercie, je ne vais pas faire plus long. J'ai quelques années de route derrière moi de ces mobilisations. Et voilà, on ne va pas répéter les mêmes choses, mais soyez attentifs, il y aura des mobilisations à venir. Et bonne soirée. Merci.
Merci Pablo. Je passe maintenant la parole à Alexandre Eniline pour le Parti du Travail.
Bien, chers et chers camarades. Commémoré le 9 novembre 1932, ce n'est pas seulement se rappeler du passé en tant que passé, mais en tant que leçon avertissement pour le futur et l'avenir. En particulier, se rappeler de ce jour où l'armée tira sur la foule faisant 13 morts est important pour comprendre et combattre le danger du militarisme, arme entre les mains des puissances impérialistes pour opprimer les peuples, à l'intérieur comme à l'extérieur de leurs frontières, et une menace pour l'existence même de l'humanité. L'impérialisme n'a pas changé de nature, ni ne peut en changer. Il est par essence agressif, porté à l'usage de la force meurtrière pour imposer sa domination, déposséder les peuples de leurs ressources. Aujourd'hui, hélas, l'heure n'est pas à la détente, bien au contraire. La planète est ensanglantée par des guerres, souvent orchestrées à distance par les puissances impérialistes. La tendance est à la course aux armements, pour lesquels des ressources précieuses que nous savons pourtant finies sont gaspillés en quantité astronomique et à la militarisation. Malgré la tragique débâcle de sa guerre en Afghanistan, l'OTAN demeure un bloc militaire agressif et s'arroge la prérogative, on ne sait trop de quel droit, d'intervenir partout sur la planète. Les puissances impérialistes sur le déclin que sont les USA est prête à tout pour maintenir son hégémonie. La stratégie agressive de l'impérialisme états-unien de tension avec la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, l'escalade verbale et les provocations constituent une menace majeure pour la paix mondiale et pourraient, dans le pire des scénarios, dégénérer en déflagration globale. Le blocus criminel des USA contre la République de Cuba, ses ingérences, ses guerres hybrides contre les peuples d'Amérique latine qui refusent de subir le joug de l'Empire doivent en particulier être dénoncés et combattus. La situation ne s'est pas améliorée depuis que Joe Biden a remplacé Donald Trump. L'alliance militaire AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie constitue un dangereux pas supplémentaire à l'aggravation de la tension militaire dans le Pacifique. L'acquisition de sous-marins à propulsion nucléaire par l'Australie représente une escalade de plus dans la course aux armements, lourde de dangers. Inutile de dire que l'impérialisme se préoccupe en réalité nullement de la démocratie et des droits humains. L'OTAN ne trouve rien à redire des crimes de guerre de l'un de ses membres, la Turquie d'Erdogan. Les États-Unis n'ont aucun problème avec les régimes autoritaires amis, sans parler de leurs propres et innombrables violations des droits humains. Ce n'est évidemment qu'une question d'intérêt des grands monopoles de contrôle des ressources et de domination. Et il faut rappeler que ces puissances n'ont en particulier aucun souci des droits humains de toutes ces personnes qui doivent fuir leur pays à cause de leur guerre, face auxquelles les pays les riches se barricadent et les traitent comme d'une façon complètement contraire à tous les droits. C'est pourquoi je vous appelle à signer le référendum contre Frontex, cette criminelle police des étrangers européenne. Et enfin, nous devons exiger le respect du droit international, le respect des peuples pour le droit à disposer d'eux-mêmes et lutter pour le désarmement global. Aujourd'hui comme hier, la lutte pour la paix passe par la lutte contre l'impérialisme.
Merci Alexandre. Je passe maintenant la parole pour le Parti Socialiste à Lydia Schneider-Hauser.
Bonsoir camarades, merci d'être là. Le 9 novembre 1932, pour combattre les idées fascistes et nauséabondes de l'Union nationale de Georges Ultramar, 13 personnes ont perdu la vie. Parmi ces victimes, seules quelques-unes étaient des personnes engagées politiquement au Parti communiste, Parti socialiste, syndicaliste. Plusieurs étaient de simples citoyens, comme on l'a déjà rappelé. Nous commémorons la mémoire de chacun de ces hommes, car grâce à eux, Genève a échappé à la peste brune, à ses exactions et à ses injustices et à la haine. Mais qui suis-je? Qui sommes-nous aujourd'hui pour oser parler, évoquer ces personnes courageuses qui ont osé manifester, braver un environnement pareil en le payant de leur vie? Des politiciennes sommes-nous? Des politiciens, des personnes qui désirent avoir une image publique, être connues, avoir une carrière? Non, non, aujourd'hui, nous sommes là pour faire mémoire et nous renforcer, nous unir pour acter un engagement de fond qui est celui de travailler un monde meilleur pour toutes et tous, et plus particulièrement pour les plus précaires, qui est de lutter pour la justice sociale, pour ne pas accepter la discrimination quelle qu'elle soit, et pour entretenir une solidarité, voire pour réinventer une solidarité adaptée à notre époque. Aujourd'hui, notre ennemi est un capitalisme hors contrôle, toujours plus sournois. Nous avons à nous unir pour arrêter cette course au profit démesuré sur le dos des travailleuses et des travailleurs, cette accélération des inégalités. Ce capitalisme détruit des pays entiers pour tester et vendre des armes produites ici. Et les régimes fascistes actuels complètent cela en utilisant, à quelques milliers de kilomètres d'ici, des êtres humains comme armes. Le capitalisme à outrance vampirise les richesses dans les pays du Sud en les condamnant à une violence et une corruption endémiques. Aujourd'hui, la ségrégation entre riches et pauvres devient de plus en plus visible ici aussi. Salaire minimum, valorisation des travailleuses et travailleurs de la santé, égalité salariale, redistribution par la fiscalité, horaires compatibles dans la vente à une vie équilibrée, les thèmes sont multiples et comme l'a rappelé Pablo, actuellement aussi la défense de pouvoir manifester, de pouvoir donner notre avis, d'être ensemble. En bref, nous voulons une place dans la société pour chacune et chacun, tant au niveau économique que politique. L'exercice de mémoire, ici, nous ancre dans le besoin d'être ensemble contre ces mécanismes qui réduisent à néant l'humanité, la solidarité et le monde qui nous porte. Camarades, il reste beaucoup à faire, mais nous devons le faire ensemble. Merci.
Merci Lydia. Je passe maintenant la parole au représentant de la communauté genevoise d'action syndicale.
Alors, salut à tous et à toutes. Alors, l'honneur me revient ce soir de parler au nom de la CGS. J'arrive à peine à Genève et me voilà porté devant la scène. Je viens de Lausanne. J'ai commencé à travailler ici il y a juste quelques mois. Et donc, on me plonge dans le bain genevois et je suis content d'être avec vous ce soir pour parler d'un sujet qui est très important. Important parce que l'histoire, c'est le guide. Quand on oublie des faits historiques comme celui que nous commémorons ce soir, eh bien, on se perd. C'est pour cela que je voudrais commencer mon discours en pensant à un de mes camarades du même pays que moi, qui s'appelle Jean-Paul Omoulou, qui est réfugié politique en Suisse comme moi, qui a pris son courage à deux mains pour aller au Togo, pour voir sa famille, et le jeudi 4 novembre dernier, il a été arrêté, kidnappé par les forces répressives au service du pouvoir togolais. Et actuellement, mon camarade et ami Jean-Paul Omoulou, père de deux petits-enfants, est en train de croupir dans les geôles du régime dictatorial au Togo. Je voudrais que vous toutes et tous ici, très bientôt, vous signiez une pétition qui va être mise en ligne sur cette question. Merci pour votre soutien. Et en ce moment, j'ai une pensée émue pour mon camarade Jean-Paul Omoulou et au nom de toute la communauté togolaise ici en Suisse, je vous invite demain, mercredi 10 novembre, à partir de 15h, devant l'ambassade du Togo, pour non seulement condamner cette arrestation arbitraire, mais aussi la libération immédiate et sans condition de mon ami Jean-Paul Omoulou, en plus des 115 prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons du Togo. Donc rendez-vous demain à 15h devant l'ambassade du Togo, situé à la rue de Lausanne 67. Voilà, rendez-vous demain à 15h. Là-dessus, je voudrais simplement dire, au nom de la communauté genevoise de l'action syndicale, que nous ne devons jamais oublier cette sinistre journée du 9 novembre 1932. Le sang a coulé, des camarades sont tombés, nous n'oublierons jamais. Presque 90 ans après ces assassinats perpétrés par l'armée suisse, un net recul des libertés est observé depuis quelques années. Au nom de l'ordre, au nom de l'ordre et de la sécurité, nous allons tout droit vers des régimes fascisants, comme le clamait Renaud dans Hexagone. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en alla voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Bolsonaro, Uli Maurer, Zemmour, les exemples ne manquent pas. Le fascisme 2.0 est à nos portes. Nous devons être fermes avec la bête immonde qui se nourrit de nos peurs, de nos frustrations et de ce ultralibéralisme qui nous broie. Le monde syndical, la CGAS en tête, est consciente de ces enjeux et appelle à l'unité et à la solidarité. La solidarité entre les syndicats également. Respectons nos différences et combattons les vrais adversaires. Les travailleurs et travailleuses de ce canton doivent se réapproprier l'appareil syndical et le faire évoluer vers la tolérance, la puissance et l'encadrement des membres. Bien évidemment, en pensant et en renforçant nos valeurs. Ensemble, solidairement, nous serons forts. Merci et bonne soirée.
Merci. Comme là, je passe maintenant la parole à un représentant du GSSA, Thomas.
901 millions de francs. C'est le montant pour lequel l'industrie suisse de l'armement a exporté du matériel de guerre en 2020. Vous avez besoin d'une mise en perspective ? C'est très simple. Jamais la Suisse n'avait exporté autant de matériel de guerre durant une année civile. Sur la liste des pays destinataires, on trouve l'Allemagne, la France, les États-Unis, mais aussi l'Indonésie à la troisième place, le Brésil à la cinquième place, l'Arabie Saoudite, Israël. Bref, La liste est encore longue et les noms qui y figurent sont extrêmement inquiétants. En 2021, la situation ne s'est guère améliorée, avec des exportations d'armes pour 503 millions de francs durant les trois premiers semestres et déjà un record en ce qui concerne les exportations à destination des pays belligérants dans la guerre au Yémen, membres de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite. Chaque année apporte aussi son lot de scandales. En mars dernier, on apprenait que l'entreprise suisse Rheinmetall Air Defense souhaitait vendre des canons anti-aériens au Qatar pour 250 millions de francs pour protéger les stades de foot dans le cadre de la Coupe du Monde 2022. Stades dans la construction desquels plus de 6500 travailleurs travailleuses migrantes sont décédés. En septembre, on apprenait même que l'entreprise enverra ses techniciennes sur place pour former les militaires qataris. Un autre scandale a fait surface en septembre dernier, cette fois impliquant l'entreprise Pilatus. Il y a quelques années, l'entreprise a vendu des avions PC-12 aux États-Unis. Ces avions ont été modifiés, armés et utilisés dans le cadre de la guerre d'Afghanistan. Un PC-12 a notamment été utilisé lors d'une attaque aérienne qui a également tué des enfants. Suite au retrait des troupes états-uniennes cet été, au moins un de ces avions est parvenu aux mains des talibans et cinq autres ont complètement disparu. Sachant tout cela, pouvez-vous deviner comment ces avions ont été catégorisés lors de leur vente? Comme du matériel de guerre? Certainement pas. Alors comme des biens militaires spécifiques, cette catégorie que seule la Suisse connaît et qui comprend les biens conçus ou transformés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes non plus. Ils ont été classés comme des biens civils, au même titre que cette feuille ou que mes chaussures. Sur le plan national, les choses ne sont guère plus rassurantes. La Suisse est en train de s'engager dans l'un des plus grands projets d'armement de son histoire. Ces prochaines années, 15 milliards vont être dépensés pour renforcer l'armée suisse. 2 milliards pour une défense solaire, 7 milliards pour l'armée de terre et 6 milliards pour des nouveaux avions de combat. L'année dernière, nous avons échoué de justesse à empêcher cet achat et aujourd'hui, la lutte continue cette fois contre le projet d'acquisition concret avec l'initiative Stop F-35. Ces avions, qui pourraient nous coûter jusqu'à 25 milliards sur toute leur durée de vie, sont parfaitement inutiles. Ils ne sont là que pour créer une illusion de sécurité face à des menaces imaginaires venant du ciel. Ils ne sont là que pour nous faire croire un intérêt national que nous aurions en commun parce que nous vivons à l'intérieur de certaines frontières qu'il faudrait protéger vis-à-vis d'attaques extérieures. Or, nous n'avons rien en commun avec Blocher, ni avec Bertarelli, ni avec ces 300 plus riches qui ont vu leur fortune doubler depuis 2003 alors que nos salaires n'ont fait que stagner. En ce qui concerne les menaces, soyons clairs. Des menaces, des vraies, il y en a. La crise sanitaire, la crise climatique en sont de bons exemples. Mais pour faire face à ces crises, des avions de combat, des chars ou une défense solaire ne nous serviront à rien. Nous avons besoin d'investissements dans le domaine de la santé, dans le domaine social, dans le domaine environnemental. C'est pourquoi il faut mettre fin à tout cela, aux exportations d'armes, aux avions de combat, aux armes, au militarisme, à l'armée, au fascisme, au capitalisme. Merci.
Merci.
Ben, ça nous paraît important ici, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec l'armée et le fascisme. Ça nous paraît important de où on est ici maintenant de parler de, du mouvement de la cafétéria, des cafétérias à l'UNI.
Merci. C'est pour faire le lien avec le fil rouge des mouvements sociaux dans l'histoire. Si on est là en deux mots, c'est parce qu'en ce moment, on est en train d'occuper la cafétéria d'UNIMAI. C'est une revendication qu'on porte. Ça fait une semaine qu'on est là. On veut en fait avoir des repas qui soient vraiment accessibles, qui soient à bon marché et qu'en fait on puisse s'alimenter d'une façon qui nous coûte pas en fait une blinde. De la même façon, en fait, on veut des espaces qui soient vraiment inclusifs et qui soient vraiment agréables, c'est-à-dire des espaces non marchands. On peut pouvoir rentrer tranquillement, pouvoir réchauffer son plat, chose que de manière générale ce n'est pas le cas. Pour cela, c'est important que les étudiantes et les étudiants soient là pour faire part de leur voix et de leur intérêt. On tient l'occupe depuis une semaine aujourd'hui. C'est très épuisant. On a fait une soupe pour vous. Du coup, je propose un applaudissement pour l'équipe qui a fait une soupe. Qu'après une semaine de faire 700 assiettes tous les jours, tous les midis, petit déjeuner inclus, souper inclus, c'est vraiment quelque chose d'épuisant. Je pense que vous allez voir dans nos visages. Pour finir, on vous invite très chaleureusement à venir après le rassemblement nous voir au cafétéria. Elles sont ouvertes, accessibles à tout le monde, sans distinction. Venez nous voir, tchatcher avec nous, boire un verre, manger si vous voulez, rester dormir, c'est tout à fait possible. Du coup voilà, merci camarades, Genève restera et reste antifasciste.
Autre chose qui nous a paru important de donner la parole 2-3 minutes à Tania à propos de la Bolivie.
Merci beaucoup de nous passer la parole. Il nous apparaît important d'être présent ici ce jour parce que la lutte antifasciste, elle est mondiale. On doit vraiment s'unir. Et l'autre camarade nous disait tout à l'heure que le fascisme était à nos portes. En fait, elle est là, elle est à Genève. Nous, on peut témoigner en tant que Bolivien. Pour résumer, on était là il y a 2 ans devant cette pierre, très, très, très mal, parce qu'on était à un jour du coup d'État, il y a 2 ans, en Bolivie, en 2019. Et vous étiez là, présents, à nous accompagner, à nous soutenir. Et on a assisté à la prise du pouvoir par les fachos. Heureusement, les fachos en Bolivie, donc sous l'autoproclamation de Agnès, a sévi, heureusement, qu'une année. Une année de dictature. Et le peuple bolivien a réussi à s'en libérer par les urnes. Voilà. Et donc là, on est maintenant... Il y a 2 ans, on était vraiment terrassés. Mais aujourd'hui, on est content parce que là, maintenant, on fête 1 an de victoire démocratique, 1 an où le peuple a récupéré le pouvoir en Bolivie. Et c'est ce qui doit être partout dans le monde, c'est-à-dire la démocratie, ben voilà, il faut la respecter, quoi. Bref, donc on est là pour s'unir contre le fascisme. On dit non facho, que ce soit en Bolivie, que ce soit au Chili. Une pensée particulière pour le Chili, hein, qui est aussi dans une... en période électorale, et malheureusement, il y a un président à tendance d'extrême droite qui est favori en ce moment. Donc le fascisme est partout, il sévit au Chili, dans les territoires mapuche, au Chili, au Brésil, avec Bolsonaro. D'ailleurs, il y a une manifestation le 20 novembre à la Place des Nations, donc il est temps plus que jamais de s'unir ici, genevois, sud-américains et de tous les pays, s'unir contre tous les fascismes. Merci beaucoup. Los fachos no pasará en Bolivia, en Avellala y en el mundo. Muchas gracias.
Je passe maintenant la parole à un camarade de Antifa.
Bonsoir. Nous commémorons cette année les 89 ans de la fusillade de Plainpalais. Le 9 novembre 1932, l'armée suisse a tiré sur une manifestation antifasciste pour défendre un meeting d'extrême droite organisé par le parti fasciste genevois de l'Union nationale. L'armée a tué 13 personnes et en a blessé une soixantaine. Les jours qui ont suivi cette nuit sanglante, les autorités ont arrêté les leaders anarchistes, communistes et socialistes et interdit toute manifestation. Il était impératif pour elles de restaurer l'ordre bourgeois face à une classe ouvrière genevoise plus que combative. Commémorer les combats antifascistes d'hier est essentiel pour garder la mémoire collective vivante, mais ce n'est pas suffisant. Le meilleur hommage, c'est de continuer le combat. Nous devons aujourd'hui soutenir la jeunesse antifasciste qui a le courage de s'opposer à l'extrême droite dans la rue et qui a subi la répression et la criminalisation. Il y a actuellement une quarantaine de jeunes poursuivis en justice à Bâle suite à une contre-manifestation antifasciste qui a eu lieu en novembre 2018. La police avait tiré des balles en caoutchouc sans sommation afin de dégager la voie pour une marche néo-nazie. Fin septembre 2021, 7 antifascistes de Lyon ont été inculpés suite à un affrontement lors d'une manifestation contre le pass sanitaire avec des militants du parti catholique intégriste et d'extrême droite Civitas. 4 d'entre eux ont passé 6 semaines en détention provisoire alors que la préfecture de Lyon ferme les yeux sur les attaques violentes de l'extrême droite depuis des années. En Allemagne, ce sont plusieurs jeunes de différentes villes qui sont actuellement emprisonnés et criminalisés pour s'être organisés contre la terreur de la violence néo-nazie. Lina, Di, Joe et Adèle payent aujourd'hui le prix pour ne pas avoir baissé les yeux face aux fascistes. Plus de 200 personnes ont été assassinées par l'extrême droite en Allemagne depuis la réunification. En novembre 2011, une cellule terroriste néo-nazie avait été découverte. Ce groupuscule, appelé NSU, avait pratiqué pendant une dizaine d'années des assassinats ciblant majoritairement des Turcs sans que la police envisage la piste des meurtres racistes. Cette affaire avait dévoilé la complicité d'agents informateurs des services de renseignement allemands au sein du mouvement néo-nazi. Récemment, plusieurs scandales ont démontré l'infiltration de l'extrême droite dans l'armée et la police allemande. C'est dans ce contexte que l'État fédéral allemand choisit de s'attaquer au mouvement antifasciste. Toutes ces affaires montrent l'acharnement policier sur celles et ceux qui s'opposent à l'extrême droite et à la volonté de la justice bourgeoise de criminaliser l'antifascisme. Face à la répression, on n'est pas toute seule.
Nous allons maintenant évoquer d'autres noms que celui qu'on vient d'évoquer, heureusement. On va déposer les roses, les 13 roses habituelles, au nom des 13 victimes de la fusillade de 1932. Elles vont, je signale que là devant la pierre, il y a le droit du peuple, c'est le journal du Parti du Travail, sauf erreur, qui est paru le 10 novembre 1932. C'est quelqu'un qui les a déposés là, chez votre camarade. Vous pouvez en prendre. C'est un seul feuillet chaque fois. C'est pas... Mais aujourd'hui, on va avoir une 14e rose, d'une couleur un peu différente. Et je laisse Pablo expliquer pourquoi.
Merci. Oui, le comité d'organisation a décidé de déposer une 14e rose d'une autre couleur en hommage à un camarade parti trop tôt. Certains le connaissent, Alfredo Camello, camarade colombien qui a lutté contre les forces réactionnaires et les forces fascistes en Colombie, qui a été privé de liberté pour avoir lutté là contre et qui est mort depuis fin du mois d'août, début septembre, dans des conditions pour le moins suspectes pour l'instant. On n'a pas encore d'enquête, mais le comité d'organisation a décidé donc de lui rendre hommage aussi pour une vie de militantisme au service de l'émancipation des peuples, et notamment du peuple colombien, d'ajouter une rose aujourd'hui. Voilà, c'est juste un petit hommage. Je vous remercie.
Alors voilà la liste des 13 victimes du 9 novembre 1932. Certaines sont décédées tout de suite, comme notamment Henri Fürst. D'autres sont morts dans la nuit et d'autres encore sont... Attends que je dise les noms. Et d'autres sont morts dans les jours qui suivirent. Alors, le premier, ils sont par ordre alphabétique. C'était Melchior Alemán, 31 ans, qui était employé d'hôtel et militant socialiste. Ensuite, Hans Brugger, qui avait 28 ans. Qui c'est qui met les roses? Ouais, mais les parterres. Francis Clair, qui avait 54 ans, qui était fraiseur à l'usine Gardy et dont le fils faisait partie des recrues. Henri Fürst, 38 ans, mécanicien et président du Parti communiste, je le vois, qui est le premier qui a été tué. Émile Guignet, 27 ans, qui était employé à la Société industrielle de mécanique. Émile Henry, 55 ans, batelier. Edmond Junot, 29 ans, mécanicien chez Moto Sacoche. Alphonse Colli, 41 ans, colporteur. Ça va. Jean-Pierre Lardera, 23 ans, employé de commerce. Gabriel Loup, 57 ans, maître boulanger. C'était le patron de la boulangerie du Bourg-de-Four. Oscar Maurer, 25 ans, employé de banque, qui sortait des cours du soir. Édouard Quillet, 34 ans, employé à l'armée du Salut. Et Marius Rata, 36 ans, qui était régent principal, c'est-à-dire maître d'école à Chênebourg. Merci d'être venu, merci de continuer la lutte tous ensemble. Tout est tous ensemble. Bonne soirée.
Donc juste, on vous invite toutes et tous, après être passés au stand où il y a notamment une petite verrée et puis un soutien à des militants antifascistes, quand vous allez acheter votre bière derrière, ça partira pour soutenir notamment les frais judiciaires d'un certain nombre de militants balois qui doivent se défendre pour avoir manifesté contre un regroupement fasciste. Donc après être passé pour prendre la petite verrée, vous pourrez rejoindre aussi les camarades de la CUAE qui font l'occupation de la CAFET. Bonne soirée à toutes et tous, et puis au plaisir de vous retrouver soit au stand derrière, soit à la CAF avec la CUAE.